podcast.com. Essaye ça. Crachoir, épisode 243, Amalgame douteux. Je sais pas si vous aimez le titre, si vous le comprenez. D'après moi, il y a des bonnes chances. D'ailleurs, on va y revenir. Il faut premièrement que vous réalisiez que Martin est absent. Pourquoi? Il a été suspendu avec solde et relégué à des tâches administratives. Martin est en train de travailler très fort à vous produire quelque chose. On a déjà fait allusion à ça. Il sort pas de sa chambre. Il travaille. C'est du vrai Martin, mais il travaille pour vous. Et je suis très confiant que le résultat, vous allez l'apprécier, et moi aussi. D'ailleurs, mais on n'est pas en reste parce qu'on est quand même accompagné du Bleuet, le Suburban en personne. Salut Bleuet.
Salut Frank.
Ça va? Hey, avant d'entrer dans le premier segment, je veux juste raconter, vous faire part d'un petit commentaire Facebook que j'ai reçu. Sous un post que j'ai fait, vous savez que j'écris pour le blog du Québec, puis j'ai écrit un texte qui parle d'entomophagie, de manger des bébites, des insectes. J'en avais déjà parlé dans le crachoir ou dans l'Express, je pense que c'est dans le crachoir. Et puis, j'ai écrit un papier là-dessus avec des photos, tout le kit. Vous irez lire ça si ça vous intéresse. C'est disponible sur le blog du Québec. Sinon, je les poste, là, je les mets sur Facebook si vous avez accès à ça. Ma publication, on voit une appétissante assiette de sauterelles, en tout cas moyen appétissante, et j'écris « Mangeriez-vous des insectes? » C'est probablement déjà fait, parce que dans l'article, je relate qu'on mange à peu près tous des bébites, ne serait-ce que dans le Coca-Cola, dont un des colorants est fait à partir de cochenilles, tu sais, un insecte. Et le premier, je sais pas si c'est le premier commentaire, mais en tout cas, un commentaire d'une dame que je ne nommerai pas, qui y va comme suit « Non! » Je vais manger ce qui me plaît, puis que c'est de la viande, ben c'est ça. Puis je veux rien savoir de me faire dire ce que je devrais manger ou pas, faire ou pas, dire quoi penser ou pas. Calisse les curés de la rectitude morale, extrême gauche, bisounours, offusqués et anti-tout. Crissez-nous la maudite paix! Mangez-en du tofu! Mais arrêtez de nous prétendre de dire, nous dicter aux autres vos idées sur ce que doit être le monde et ce que nous devrions faire à votre goût! On s'en tape! Elle était offusquée, là, offusquée. Mais ça se trouve que nulle part dans l'article, puis nulle part, je dis au monde, mangez ça, arrêtez de manger de la viande. Je sais pas pourquoi elle inclut le véganisme là-dedans. Je suis pas vegan, je mange pas de tofu.
Qu'est-ce que le tofu, il a fait à la pauvre madame?
Et c'est moi le bisounours offusqué, tu sais, alors que moi, j'ai juste partagé de l'information qu'il existe une autre source d'alimentation. J'ai jamais dit arrêtez de manger de la viande, devenez vegan. De toute façon, je suis pas sûr que manger des insectes, ça s'inscrit dans le véganisme. Là, c'est pas très végétal, une sauterelle, là, mais...
Non. Puis là, juste... moi, de tous les surnoms que je pourrais te donner, bisounours...
Je pense pas qu'elle me connaisse tant que ça. Je pense pas, tu sais, il y en a qui s'identifient à toutes sortes d'affaires aujourd'hui, puis on va en parler. Bisounours, non, je ne m'identifie pas à un bisounours.
Ben, ça dépend.
C'est moi la réaction de rage, tu sais, c'est comme quand on parle du fait que tout est polarisé, puis c'est pour nous, avec nous ou contre nous, c'est exactement ça. D'ailleurs, c'est le genre de réponse que je lui ai faite, là, je te dis pas quoi manger, puis moi, il y a jamais personne qui m'a dit quoi manger, quoi pas manger. Puis ben oui, les véganes, ils ont des arguments, les autres en ont aussi, mais c'est, il n'y a pas question de ça, là. C'est juste un article qui informe de façon ludique, puis un peu comique, là. En tout cas, j'ai essayé d'être comique un peu dans l'article, là, qu'il existe une autre façon de manger puis de contribuer à nourrir l'humanité autre que des steaks puis du tofu. Je parle même pas de tofu. Je sais pas pourquoi. Il y a des gens qui, aujourd'hui, sur les médias sociaux, tu peux pas avoir une opinion nuancée, là. C'est impossible. Puis tu peux pas accepter que quelqu'un soit nuancé non plus. Il est avec toi ou il est contre toi?
Ouais, puis outre à avoir une opinion, c'est ce besoin de donner son opinion. On te passe ton chemin, t'as pas apprécié l'article.
Au pire, donne ton opinion sur les insectes qui est le sujet de l'article. Pourquoi tu me parles de véganisme? T'étais sur le bord de me parler de politique puis de religion, là. Sans que moi, pour une fois, sans que moi, j'aborde le sujet. Pour une fois que j'en parle pas. Ah, mais il y a des gens comme ça qui sont intransigeants sur les réseaux sociaux. Et il y en a qui le sont dans la société at large. Et c'est ce qu'on va observer à travers les Actu Conspi.
Actualité Conspi.
Et en placement de Martin, ben Colin, on a un Suburban pour se charger de cette chronique-là. Fait que je pense qu'on va avoir du fun.
On va s'amuser. J'avoue que je suis un tantinet nerveux. Non, c'est mal à connaître. Mais je te présente ça plutôt comme un survol parce qu'en même temps, ça marquait la dernière semaine entre guillemets de ménage du dimanche. Mm-hmm. Et je suis allé voir ce qui s'est passé.
Ouais, les conspis nous ont eu finalement là.
Ben oui, hey.
On a fermé parce qu'on avait peur là, de la vérité. C'est parce que là, il y a trop de vérités qui sortent, tu comprends? Fait qu'on peut plus mentir. Là, on s'est fait avoir, là, tu sais, là, c'est surdose de vérité conspirationniste, fait que nos mensonges, puis aussi, ben, faut le dire, le contrat avec le gouvernement est venu à échéance, puis s'il paye plus, ben, on n'en fait plus d'MDD.
Non, plus d'enveloppe brune, ouais, plus de non, plus
on
de
va fermer le site. Non, c'est fini. Non. On va fermer le site crachoir.gouv.qc.ca, puis c'est tout.
Bien sûr. Ah, ce site. Donc, nous autres, le survol de la semaine, en gros, lundi, je ne t'apprendrai pas cette grande nouvelle. Caroline Lessard, avant de quitter pour le Sud en vacances, a senti le besoin de faire un... C'est drôle, on parle de... d'amalgame. Prendre un petit raccourci, lister 4 cas où il y a eu des tireurs de masse qui étaient... possiblement identifié à des trans sur les quoi? C'est quoi les chiffres l'an passé aux États-Unis? 600 dans l'année, à peu près?
Oui, c'est ça. Il y en a une moyenne de 2 à 3 par jour, là. Fait que, tu sais, c'est sur des centaines de tireurs qui ont fait des massacres ou tenté de le faire. Elle a trouvé 3-4, c'est évidemment statistiquement, ça dénote un problème criant, là. Ben les trans sont ultra violents.
Il y a une mouvance de méchants trans qui vont utiliser des guns pour aller tuer du monde.
D'ailleurs, je vais citer Martin, là. Le seul dénominateur commun de tous ces gens-là, comme l'a dit si bien Martin, c'est qu'il y avait tout accès à des guns. C'est le seul dénominateur commun. La seule. OK, il y a des incels, OK, il y a des gens qui ont vécu de l'intimidation. Mais ils ont tous des guns. C'est la seule affaire qu'ils ont en commun, là, c'est les armes à feu.
Ben oui, mais tu sais, il y a une expression en anglais, de toute façon, qui s'appelle going postal. T'sais, c'est parce qu'il y a un dude qui travaillait pour la poste à un moment donné, qui a perdu son emploi ou peu importe, sa femme l'a laissé, puis il a décidé de tirer dans le bureau de poste.
OK, fait.
Ben, c'est quoi? C'est une nouvelle mouvance, les.
Ben, c'est gentil de me le dire.
Poste,
parce que là, à ce temps, je peux me méfier puis avoir peur des facteurs.
Oui,
c'est ça.
Puis il y en a peut-être. Certains, si on faisait un survey, là, on faisait un décompte, il y a peut-être 4 facteurs dans les 10 dernières années qui ont fait des tueries de masse.
Ah oui, puis il y a peut-être 11 plombiers, ce qui voudrait dire que les plombiers sont plus violents que les facteurs. Ah, mais tu sais, je veux dire, c'est pas de sa faute à niaiseux.
Mais nous, par rigueur, on n'ira pas dans ces raccourcis-là, mais juste pour prouver à quel point c'est cave. Ensuite de ça, cette semaine, ben ça, c'est quelque chose qu'on a entendu parler déjà pas mal et on savait que cette dame-là avait pas compris les législations canadiennes. Danielle Smith, la première ministre de l'Alberta, qui il y a des.
Ben, le 51e État.
Oui, bien sûr, où on peut gracier... Non, c'est vrai, c'est pas dans la Constitution canadienne, cette affaire-là. Mais il y a une vidéo, il semblerait qu'elle était là depuis 2 mois, mais qui commence à circuler, où on l'entend parler, qu'elle parlait à la justice et tout, tu sais.
Qu'elle fait de l'ingérence,
ouais, c'est ça, en latin, ils appellent ça faire de l'ingérence. Et c'est ça. Fait que ça ressort.
Elle connaît mais tellement pas sa job qu'elle pensait qu'elle avait la même prérogative qu'aux États-Unis, que certains, ouais. Certains postes au gouvernement offrent de gracier des gens. Là. Ah, ben là, écoute, là, t'es pas le monarque là, qui décide de vie ou de mort, ou t'es pas le roi Salomon qui dit couper le bébé en deux. Là. Maudit épaisse.
Non, non, ça, c'est incroyable. Ben, tu sais, en même temps, il faut rappeler qu'elle n'a pas été élue. Là. Elle a été nommée à la tête de son parti qui était au pouvoir. Il y a quand même ça comme nuance. Mais, tu sais, à quel point
c'est tu comprends qu'il y avait pas...
Ouais. Ouais. Ish. Mais la grosse nouvelle de la semaine, c'est jeudi que ça s'est passé. C'est Donald Trump qui a finalement été inculpé dans une affaire d'achat de silence d'une vedette porno qu'on appelle... Stormy Daniels! Il devra, appelez-le comme vous voulez, comparaître devant la justice à New York mardi. Et ceci, c'est un fait historique. C'est jamais arrivé pour aucun président ou ex-président américain. Mais là, évidemment, sa réponse.
Ouais, hein, c'est...
Ben oui. Lui, c'est sa réponse, c'est que c'est des racistes puis que c'est de la persécution politique.
Des racistes!
Ben oui, parce que la personne qui a signé le papier, c'est un noir.
OK, puis dans le fond, il éprouve une haine irrationnelle envers les gens de race jaune-orange.
C'est ça.
OK.
C'est ça.
OK. Ouais. D'ailleurs, il va prendre la parole mardi soir, là, Trump. Là.
Ouais, mais ça, c'est assez hallucinant. À quel point, à quel point il se contre-calisse du système de justice, là? Le monsieur qui a fait faillite cette fois, là, dont le père est né avant lui.
Oui.
À quel point il se contre-calisse du système de justice, il annonce là que mardi soir, alors que dans la journée, il devrait être, je pense à 14h25, si ma mémoire est bonne, devrait être à la cour à New York, le jaune-orange à toupette flottant, s'en contre-calisse, il va faire une conférence de presse chez eux en Floride.
En Floride. Et d'ailleurs, Ron DeSantis qui a affirmé qu'il ne collaborerait pas avec les autorités, fait que c'est pas lui qui va envoyer Trump à la potence new-yorkaise.
C'est ça, ils ne vont pas
le faire. Je fantasme un peu trop, là. Je veux dire, au poste de police new-yorkais.
Ouais, la potence.
Ouais, mais ben, c'est imagé, là. Je veux pas qu'il se fasse prendre, là. J'aime bien mieux qu'il fasse un accident ridicule parce qu'il n'a pas fait attention, ou bien qu'il s'étouffe avec un morceau de poulet frit.
Mais non, mais tu sais, quand tu penses que tu as le droit de tout faire, puis de dire n'importe quelle ânerie, puis ça ne reviendra jamais contre toi, puis tu prends de l'argent d'un fonds électoral, puis tu prends 130 000 piastres ou 1,3 million pour aller payer une dette ou une peu importe.
Acheter le silence de quelqu'un. Ben même s'il avait payé de sa poche, je veux dire, je pense que quand même, ça serait répréhensible. Mais là, tu sais, on parle d'accusations criminelles. Puis le pire, c'est que c'est la moindre de ces accusations qui. C'est le moindre de ces procès, tu sais, qui pourrait arriver. Parce que ce qui est du. L'insurrection du 6 janvier au Capitole, ben il pourrait répondre à des affaires pas mal plus graves que ça, là, tu sais, fomenter la révolte. Là, c'est une expression moyenâgeuse qui n'a sûrement aucune valeur légale, mais ça va ressembler à ça.
Ouais, non, c'est spécial, puis évidemment, lui, tu sais, il dit que c'est pas vrai, puis c'est honteux, puis le peuple américain, puis c'est Biden qui est en arrière des accusations, une chasse aux sorcières,
c'est politique.
Ça n'arrête pas, c'est tout le temps les
mêmes. Ah oui, sa chasse aux sorcières, est-tu drôle?
Ouais.
Oui. Quoi d'autre?
Il y a Monsieur Duhem aussi qui ne peut jamais passer son tour. Il chiale, parce que je ne sais pas comment le dire autrement, contre le projet de loi C-11 qui va, en théorie, aider les médias canadiens. T'sais, si tu te rappelles, il y a quelques semaines, Google faisait des tests, puis les gens ne pouvaient plus trouver les articles de journaux sur Google ou sur Facebook, peu importe, ou les deux, parce que probablement que les deux plateformes faisaient des tests. Ben, Duhem, il dit que ça va limiter notre liberté de parole, notre droit d'avoir des petites opinions, puis pas aux petits poulets. Oh. On est malheureux, on s'en va dans une dictature, c'est clair, clair, clair.
Évidemment. Puis moi, c'est pas tout à fait ça que j'ai compris du projet de loi, là, mais je veux dire, je pense qu'il l'adapte un petit peu, tu sais, pour pouvoir, pour lui permettre justement de s'élever contre quelque chose. Comme on l'a souvent dit, d'ailleurs, ça fait deux fois que je cite Martin, je vais le citer encore, c'est bien plus facile de mobiliser des gens contre que pour quelque chose. Fait que quand tu trouves ou inventes ou exagères des soi-disant problèmes que tu peux présenter comme un scandale, ben c'est pas mal mieux pour mobiliser sa base d'enragés.
Oh oui, puis tu sais, les arguments que j'ai entendus des gens qui sont contre ça, que ce soit du M ou le Parti conservateur au fédéral, tu sais, ils vont dire aux Canadiens qu'est-ce qu'ils ont le droit d'écouter. Ça existe déjà, monsieur, ça s'appelle le CRTC, il y a des normes déjà.
Ouais, t'sais. C'est pour ça qu'on voit pas des gros films de porn à midi et quart à TV publique.
Ben oui, puis il y a des lois qui encadrent plein d'affaires. T'as pas le droit de mettre des publicités de jouets pendant une émission pour enfants.
T'as même d'ailleurs plus droit de faire de publicité de jouets, point, si je me trompe pas. Puis tu peux pas faire de publicité qui fait la promotion d'alcool. Comme par exemple, quand j'étais en radio, on pouvait faire une publicité pour un bar, mais on pouvait pas dire le pichette à 5$ parce que ça...
Ah ouais, les deux pour un, le 5 à 7.
C'est ça, on peut rien dire de ça parce que ça incite les gens à consommer de l'alcool. Puis ça, on a décidé comme société qu'on ferait pas ça dans nos médias. T'sais. Fait que c'est juste normal qu'il y ait un niveau de censure. Je suis pas pro-censure, j'aime pas la censure. Mais il y a des moments où elle est nécessaire. Si tu veux pas que des enfants, par exemple, soient exposés à de la sexualité ou à de la consommation, tu sais, puis d'abusive, puis ou de la violence extrême, tu sais, il y a un moment donné, faut juste être logique un peu, là, tu sais.
Oh oui, ben c'est comme les médicaments. T'sais, les médicaments, t'as pas le droit de faire la promotion au Canada, je parle, de ce que ça fait, des t'sais, ça peut servir à telle affaire, mais consultez votre médecin.
Oui.
Et un des meilleurs exemples de publicité, puis c'est drôle parce que ça a fait 25 ans, il y a quelques temps. Là. Il y a 25 ans, il y avait le fameux Viagra qui avait été lancé. Ces directives-là que tu n'as pas le droit de dire à quoi ça sert, comment c'est utilisé ou prescrire un médecin dans de la pub, fait place à une des publicités les plus géniales que moi j'ai vu de mon vivant. La publicité du gars qui sort, puis là, bon matin, bon matin.
Oui, c'est ça. Il a passé une bonne nuit.
C'était génial, mais ils n'ont jamais dit ce que ça faisait, mais tout le monde comprenait.
Oh, tandis qu'aux États-Unis, on fait carrément des promotions de marques de médicaments, puis il y a ça, tu vas voir, puis pas juste un Viagra, mais un paquet d'autres, là, tu sais. Oui. Mais c'est sûr que c'est capitaliste à l'extrême, les États-Unis, fait que. Jamais qu'ils vont limiter la publicité, j'ai l'impression, ben, t'sais, pour inciter les gens à consommer parce que c'est un peu au centre de leur société.
Oui, oui, oui. Mais pendant que les conservateurs canadiens et M. Duhaime se dressent contre les projets de loi qui vont faire de la censure puis restreindre leurs droits puis leur ci puis leur ça, aux États-Unis, ce grand peuple qui permet toute la liberté, sauf. Certains livres, je pense qu'il y a comme 1200 livres qui ont été mis à l'index là, dans des écoles puis dans des bibliothèques parce que ça pourrait transformer nos enfants en homosexuels ou pire, en drag queen. Oh.
C'est le retour des brûleurs de livres. Là, puis
c'est ça. La dernière niaiserie, c'est dans une école. Voyons, il me semble que je l'avais écrit. En tout cas, c'est pas grave. Il y a une chanson de Dolly Parton, un duo avec Miley Cyrus qui s'appelle Rainbow Land.
Ah non! Tonne d'homosexuels.
Des enfants qui voulaient chanter ça leur spectacle de fin d'année. Puis là, il y a probablement une madame sur la direction de l'école ou les parents bien-pensants de l'école. Oh non, Rainbow! Oh, le pays des arcs-en-ciel! Nos enfants de première année vont être transformés à jamais. Ils vont devenir homosexuels.
Ils vont aller au quartier gay pour voir d'autres rainbows parce qu'ils vont être tellement accro. Ah, c'est n'importe quoi. C'est comme la semaine passée, cette histoire-là avec le David de Michel-Ange qui ressemblait, tu sais, avait un épisode des Simpsons où on met des jeans au David de Michel-Ange. Parce que là, il y a de la nudité, fait que c'est absolument c'est de la sexualité. Il y en a qui font pas la différence. Hein. Dès qu'il y a de la nudité, pour eux autres, c'est de la sexualité. Même sur une sculpture faite d'un des plus grands maîtres de l'humanité, ben tu peux pas l'apprécier si t'as pas 18 ans et plus, parce qu'on voit une petite bisoune en roche. Tu sais, Colin, là, il est pas en érection en train de s'accoupler avec avec un autre gars, là. Il est juste tout nu, là. C'est le David de la Bible, là, tu sais, qui a tué
Goliath
avec une roche.
Oui.
Eh bien, cette représentation-là a fâché les Américains. Pourtant, avant, tu sais, c'est drôle, hein? On dirait qu'on raconte l'histoire d'une autre époque. À l'époque où les gens étaient pas très avancés, puis qu'ils étaient trop influencés par la religion, ils voyaient du péché partout dans ce temps-là. Mais là, ce temps-là, c'est aujourd'hui! On est...
Non, puis en même temps, là, t'sais, les fameuses représentations des statues romaines, t'sais, le corps parfait, entre guillemets,
les Olympiques grecs, ça se passait nu, ça, là.
Oui, c'est ça. Fait que là, à un moment donné, c'est pas parce qu'il allait dans une chambre à coucher comme, tu sais, s'il gagnait la course, là. Ben, peut-être que oui, là. Mais, tu sais, ça a pas rapport. Les Olympiques, là, les Olympiades, c'était la célébration de la force, des capacités de l'humain
oui, à se
dépasser. C'est juste ça, tu sais.
N'empêche que ça devait être drôle et un peu inconfortable, par exemple, je sais pas, de courir un marathon ou un sprint tout nu, là. Tu sais, ça doit être spécial à voir, puis ça doit pas être nécessairement très confortable, hein? Imaginez un petit peu ça, que ça se promène à la vitesse qui court, là. Moi, je comprends qu'aujourd'hui, ils s'habillent, mais je suis pas sûr que c'est pour des raisons de scrupules moraux. Je pense que c'est juste plus pratique. Ferais-tu du saut à la perche tout nu, toi? Moi, non.
Non, pas par pudeur. Non. Ben, je ferais pas du saut à la perche, point.
Non, moi non plus, ça c'est pas vrai.
Prendrais une bonne perche.
Non, mais en fait, à l'époque où les athlètes étaient nus, le saut à la perche était une toute autre discipline.
Oh, putain.
Hey, parlant de joke, je peux-tu te conter une astide bonne joke?
Vas-y.
C'est une joke de Dan Pilon. Fait qu'elle est pas bonne. OK, je te lis ça.
Je vais préparer mon drame.
Oui, prépare-le. Faut que je te fasse un signe parce que le punch n'est pas évident. Okay? Quand je vais lever ma main, là, c'est le bout de ce qu'on est supposé rire.
OK.
J'ai deux voisins qui ont deux gazons pareils, deux quais pareils, deux pontons pareils et deux bateaux pareils. Il y a juste les deux femmes qui sont pas pareilles. Ha 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 ha. C'est supposé être une joke de Dan Pilon, ça. Genre des centaines de likes. Comme qui est mauvais.
C'est comme quand les enfants ont 4, 5, 6 ans, puis là, ils sont inventés une blague, puis là, ils viennent te la conter, là.
Puis là, tu fais semblant de rire comme... pour être poli, mais tu veux le ménager parce que tu dis que, bon, tu sais, à l'âge qu'il a, son sens de l'humour n'est pas très développé. Mais on peut dire la même chose de Dan Pilon, c'est juste qu'il est vieux. Puis c'est juste pas développé, point. Atrophié. Il a un sens d'humour atrophié.
Et les deux autres sujets de la semaine, on regardera peut-être plus ça dans l'after show parce que c'est plus visuel.
Mon père qui sent un mot.
J'ai pas vérifié les chiffres, mais d'après moi, il devait y avoir au moins 3-4 millions de personnes à Ottawa hier et aujourd'hui.
Oui.
Et malheureusement, ce matin, à Ville-Sainte-Catherine, sur la rive sud de Montréal, il y avait, je vais faire ma phrase comme il faut, ce matin... À Ville-Sainte-Catherine, sur la rive sud de Montréal, Barbada présentait l'heure du compte. Mm-hmm. Et malheureusement, il y a une gang de caves qui sont allés manifester.
Oh boy, je pense même qu'il y a eu des contre-manifestants. Hein? Ça a brassé un petit peu, même qu'il y en a qui se sont affrontés, poivre de Cayenne, toute la patente. Il y a eu des arrestations. Colin, venant d'une gang qui pendant la pandémie, ils ont peux-tu laisser les enfants tranquilles? Ben, laissez-les donc tranquilles! Colin, quand ils vont écouter une histoire inoffensive.
Comment je dirais bien, là, tu sais? C'est comme aller manifester. C'est probablement. Ben, c'est déjà arrivé. Souviens-toi. T'sais, souviens-toi dans le temps là, qu'il y avait les Burnham and Bailey's. Là. T'sais, ça existe moins, là, les cirques. Puis il y avait des gens de PETA qui allaient manifester. Puis là, je suis pas en train de dire que c'était pas vrai. T'sais, que les animaux de cirque étaient maltraités. Peut-être que oui, peut-être que non. Je sais pas. C'est pas mon domaine de représailles et d'investigation. Mais t'sais, les pauvres enfants qui vont au cirque puis qui ont des gens qui crient là, allez pas voir ça, vous encouragez les animaux. Okay? C'est aussi cave que ça. C'est comme aller en avant du Centre Bell parce que là, toi, tu vas aller manifester contre l'exploitation sexuelle de Disney, mais tu fais ça pendant... Il y en a pas, là, mais dans la tête de certains, il y en a. Puis là, non, la petite fille, t'as pas le droit d'aller écouter Disney on Ice parce qu'ils vont te transformer, tu vas devenir queer, puis tu... Ta gueule, c'est pas là que tu vas faire des débats.
Non, c'est ça, tu sais. Puis si on peur de ce à quoi les enfants sont exposés, ben être exposé à des adultes enragés qui crient des slogans haineux de façon pacifique, là.
Oui,
mais tu sais, qui haïssent de façon pacifique, je suis pas sûr que c'est pour le bien-être des enfants. Fait que j'ai l'impression que la motivation de certains conspis, François Amalgama, je pense que je suis pas sûr que c'est le bien-être des enfants. Moi, je pense qu'il veut juste maintenir son statut de vedette conspi alors qu'il n'y a plus de mesures sanitaires contre lesquelles s'insurger. Il s'est juste trouvé une autre cause pour continuer à exister dans la complosphère.
Pis ça donne bien. Hein? Tantôt, on va aller parler avec quelqu'un qui a peut-être des bonnes réponses pour nous à ce sujet-là.
Ben oui, d'ailleurs, on va se... T'as-tu fini avec les actus conspi?
Ah, ça ressemble à ça.
Bon, ben, on va se diriger vers cette entrevue-là. On parle avec Sophie, qui est psychologue, qui va nous démêler un paquet d'affaires sur ben, vous allez voir. Restez avec nous. On se dirige vers cette entrevue-là. Puis ça devrait être très instructif et très intéressant. C'est le crachoir, épisode 243, Amalgame douteux.
Abonne-toi à notre Patreon et découvre des centaines d'heures de contenu. Tu auras aussi accès à la légendaire Chambre froide.
Rire et facepalm garantis.
Le crachoir, épisode 243. Aujourd'hui, c'est une journée spéciale. On reçoit une invitée qui va nous démystifier un paquet d'affaires qui des fois, on pense maîtriser, puis on le maîtrise pas tant que ça, mais faut dire que ça, avec les années, ça s'est un peu complexifié à mesure qu'on en a appris plus. Des fois, les données se mélangent et les appellations ainsi que les acronymes deviennent de plus en plus compliqués. C'est pour ça qu'on a invité Sophie, qui est sexologue, qui va nous aider à démystifier tout ça. Salut Sophie!
Salut!
Ça va bien?
Oui, ça va bien. Vous autres?
Ça va très bien. Premièrement, on va commencer par la base, sous ta suggestion d'ailleurs. On va démêler ce qui est le sexe biologique, l'identité de genre, l'expression de genre, l'orientation sexuelle et amoureuse. C'est quoi la distinction entre tous ces termes-là que certains s'amusent à amalgamer? Hein?
Mm-hmm. Ben, en fait, tous les termes que tu as nommés s'inscrivent tous dans un continuum. Fait que c'est comme s'il y avait différentes dimensions pour parler de qui on est, de qui on aime aussi. Fait que, admettons, si on parle d'un continuum, tu sais, ça veut dire que il y a quelque chose au bout, il y a quelque chose à l'autre bout, il y a quelque chose au milieu, puis il y a plein de choses entre tout ça.
Un peu comme une échelle.
Exactement. Ou un spectre. Il y en a qui appellent ça un spectre. Donc, si je commence par le sexe biologique, qu'on appelle aussi le sexe assigné à la naissance. Fait que, à un bout du continuum, il y a le masculin, à l'autre bout, il y a le féminin. Dans le milieu et entre tout ça, il y a une certaine partie des gens, évidemment, c'est une petite partie, qu'on va appeler intersexe. Pourquoi? Parce que il y a eu des erreurs dans le développement du fœtus. Pour faire une histoire courte, là, les fœtus, dans les premières semaines, quand ils sont dans le ventre de leur mère, le sexe est indifférencié. Ça veut dire que tout le matériel qui va servir à produire les organes génitaux mâles ou femelles, donc des femmes et des hommes, c'est la même chose. Et en fonction de certaines particularités, là, notamment des chromosomes, ben il y a des parties qui vont s'atrophier, qui vont se développer. Il y en a d'autres qui vont, tu sais, là, qui vont grossir ou qui vont diminuer. Par exemple, les ovaires, ben c'est le même matériel de base que les testicules. Donc, il y a des fœtus qui se développent avec des erreurs de développement. Donc, c'est une problématique qui, une fois que l'enfant naît, c'est comme s'il y avait certaines caractéristiques des hommes, mettons, appelons ça mâle ou femelle, puisqu'on parle de biologie. Donc, certaines caractéristiques mâles, par exemple, il peut avoir un pénis puis des testicules qui sont présents, mais la personne a aussi un utérus. Fait que c'est comme s'il y avait un mélange. Puis ça, ça peut prendre différentes formes. Fait qu'on sait pas trop, quand l'enfant naît, si on le regarde, des fois, on sait pas trop, c'est un garçon ou une fille, parce que les organes génitaux externes sont soit sous-développés ou surdéveloppés. Donc, ça, c'est les personnes qui sont intersexes. Fait que, mais essentiellement, masculin ou féminin, le sexe assigné à la naissance. Après ça, il y a l'identité de genre. L'identité de genre, c'est indépendant du sexe biologique, donc du sexe assigné à la naissance. Et ça, c'est l'expérience intérieure, le sentiment, les perceptions que j'ai, moi, à l'intérieur, d'être davantage un homme, davantage une femme, ni un ni l'autre, ou les deux en même temps. Okay, là, je vais essayer de rendre simple la patente. Donc, encore une fois, j'ai mon continuum. À un bout, j'ai le masculin, à un bout, j'ai le féminin. Donc, je suis un homme, je suis une femme, je suis ni un ni l'autre. Ça, c'est les gens qui vont se définir comme étant non-binaire. Puis là, je vais vous nommer des termes qu'on pourrait appeler des étiquettes, mais il y en a beaucoup plus que ce que je vais nommer. Mais on va essayer de, évidemment, là, de rendre ça plus simple. Donc, il y a des gens qui vont se définir en disant, moi, mon sexe assigné à la naissance, il correspond pas à comment moi je me sens en dedans. Soit parce que je suis ni un ni l'autre, soit aussi parce que je pourrais être les deux en même temps. Et on va parler, par exemple, d'androgynie ou encore on va être cisgenre. Par exemple, moi, je suis une femme, mon sexe assigné à la naissance était femelle, donc moi, je suis une femme cisgenre. Parce que je suis raccord, là, tu sais, en dedans puis à l'extérieur.
Ton sexe biologique correspond avec la façon dont tu te sens.
Exactement. Okay. Et ça peut même être fluide, parce qu'encore une fois, quand on prend la peine de placer ça sur un continuum, c'est que ça peut même être fluide au courant de la vie en fonction des périodes aussi du développement. Donc, il y a des gens, par exemple, à certaines périodes de leur vie, se sont plus sentis comme une femme, d'autres comme un homme. On va revenir aussi sur les trans, parce que il y a des gens dont le sexe, l'identité de genre ne concorde pas avec le sexe biologique, puis qui veulent, ils veulent que ça change.
Oui, ils veulent que ça concorde.
Exactement, ils cherchent à ce que ça concorde. Il y a l'expression de genre aussi. L'expression de genre, dans le fond, là, c'est juste la façon dont on va exprimer devant le monde, dont la façon dont on va s'habiller, la façon dont on va se comporter. Donc, ça, c'est l'expression de genre. Fait qu'encore une fois, l'expression de genre est souvent concordante avec l'identité de genre. Oui. Parce que
bon, on va être si perçu de la façon dont on se sent. Là.
Exactement. Exactement, vous avez tout compris. Tantôt, je parlais des androgynes. Il y a quand même des gens qui vont se définir comme androgynes parce qu'eux, ils vont à la fois soit s'habiller, se comporter des deux. Par exemple, on pourrait voir un homme qui est habillé de ce qu'on pense qui correspond à être un homme, mais qui va porter du maquillage. Donc là, on va peut-être plus parler d'androgynie. Mais il pourrait y avoir des hommes cisgenres, donc l'identité de genre à concorde avec le sexe biologique, qui ont le goût de se maquiller. Ça fait pas deux des androgynes. Okay? Ça, c'est tout. Je trouve que c'est un aspect, en tout cas, c'est mon opinion personnelle et professionnelle. C'est merveilleux de savoir que maintenant, c'est comme si on démocratise la différence. C'est comme si là, tout à coup, on peut de plus en plus exprimer qui on est. Ça va-tu jusque-là?
Oui, absolument. Même que je m'identifie un peu. J'ai eu une époque à l'adolescence où je m'étais peint les ongles en noir. Oui. Puis pourtant, j'étais un homme cis, puis je me sentais pas autrement que ça. Il y avait une petite partie de moi qui voulait un peu provoquer parce que j'étais dans un milieu, justement, tu sais, qui était très, très rigide, là, tu sais. Gars, tu sais, puis un petit peu, tu sais, pour ne pas dire arriéré, là, mais tu sais, je n'aimerais pas la place. Puis on dirait que j'avais le goût de brasser ce monde-là en faisant ça. Moi, ça, c'était, je sais pas si c'est un genre être un emmerdeur, mais c'est pas mal ça que je faisais.
Oui. Ou c'est juste une façon de développer son identité parce qu'à l'adolescence, on veut se différencier des modèles qu'on a eus parce qu'on veut forger notre propre identité.
Oui, je voulais me dissocier de
tout. Exactement, exactement. Mais puis là, on le sait, là, tu sais, moi, j'achète là, du vernis à ongles, puis là, je voyais dans la marque que j'achète qu'ils ont sorti une collection qui était pour les hommes, tu sais, une collection où, plutôt que d'être brillant, c'était mode. Donc, vraiment, on commence à... Là, il y a une... Tu sais, de plus en plus, on va en voir. Il me reste deux concepts ou deux termes à démystifier. c'est le premier, c'est l'orientation sexuelle. Donc, l'orientation sexuelle qui a pas rapport avec mon identité de genre nécessairement, mais qui va être le genre qui va m'attirer. Donc, le genre pour qui je vais avoir une attirance sexuelle. Fait que, encore une fois, j'ai un continuum. Là, il y en a du terme puis des étiquettes qu'on pourrait mettre. Oui. À un bout, j'ai l'hétérosexuel. À l'autre bout, j'ai l'homosexuel. Mettons, on drette au milieu, je pourrais avoir le bisexuel.
Est-ce que c'est l'échelle de Kinsey, ça, d'Alfred Kinsey?
Ben, en fait, oui, puis c'est drôle que tu dises ça parce qu'à chaque fois que je parle de ça, j'y pense à l'échelle de Kinsey, mais l'échelle de Kinsey, on le sait qu'elle est vieille. Là. Moi, j'ai fini mes études au début des années 2000. Là, fait que,
oui, moi, j'en parlais il y a 10 ans à la radio, oui. Puis j'étais un extraterrestre. Là.
Oui, puis c'est encore d'actualité parce que, okay. ce que Kinsey disait, là, c'est que lui, il avait placé sur l'échelle, mais aujourd'hui, il y a beaucoup plus de termes pour définir l'orientation sexuelle là, qui sont presque à l'infini, là, on pourrait dire, puis qui va continuer d'évoluer. Kinsey, dans le fond, lui, ce qu'il disait, c'est que, par exemple, les hétérosexuels, là, je vais peut-être en choquer quelques-uns, mais il disait que c'était plutôt rare, les hétérosexuels purs et durs, parce que on peut avoir des fantasmes homosexuels. Tu sais, la sexualité, elle s'exprime pas juste dans l'agir sexuel, dans nos comportements. Mm-hmm. La sexualité, elle va aussi s'exprimer dans nos fantasmes. Fait que lui, ce qu'il disait, c'est qu'il y avait beaucoup, par exemple, d'hommes hétérosexuels qui pouvaient, soit à l'occasion, soit régulièrement, avoir des fantasmes pour quelqu'un de l'autre sexe, mais sans nécessairement se définir comme homosexuel ou bisexuel. Fait que lui, ce qu'il nous disait, c'est que les deux bouts du spectre, là, c'est pas nécessairement la majorité parce que ça fluctue et dans le temps, ça fluctue en fonction de Niri. Ce jeu, ça fluctue dans le temps au cours de la vie.
Ce que j'avais lu à l'époque, c'est que oui. quand je voulais justement défendre l'homosexualité, c'est quand, en tout cas, aujourd'hui on dit la diversité sexuelle ou peu importe, mais dans ce temps-là, c'était juste défendre l'homosexualité. J'avais trouvé que dans le royaume animal, c'était sensiblement les mêmes proportions. Puis je sais pas si ces données-là sont périmées. Ou si mon souvenir est exact, mais on dit que c'est à peu près 11% de la population animale, les humains, homo sapiens compris là-dedans, à peu près 11% qui étaient homosexuels purs et durs, comme selon Kinsey, et à peu près la même proportion qui étaient hétérosexuels purs et durs. Tu sais, la majorité des gens et des animaux se promenaient quelque part dans son échelle.
Ce qu'on pourrait dire, c'est que les comportements homosexuels chez les animaux, tu sais, les animaux, puis parce que là, je vous ai pas encore parlé des différentes dimensions de la sexualité, mais la sexualité, c'est pas juste l'acte sexuel, tu sais, il y a différentes dimensions, dont une qui est très importante, la dimension affective. Mmh. Et donc, tu sais, moi, je pense pas là, que des singes, ça tombe en amour, mais il doit certainement y avoir une forme d'attachement, ne serait-ce que pour assurer la survie, là. Hein, si, donc, il y a des comportements qui sont homosexuels et qui visent juste le plaisir, un peu comme deux singes, c'est une drôle de comparaison que je fais, mais tu sais, quand on va au zoo, on voit des singes qui font le geste de s'épouiller, là, tu sais, qui cherchent des trucs. Ça, c'est, encore une fois, c'est des comportements qui assurent la survie de l'espèce parce que ça permet de prendre soin. Probablement que les comportements homosexuels chez les animaux visent peut-être la même chose, c'est simplement à se faire du bien. T'sais.
Ben chez les bonobos, je sais que les singes bonobos, qui sont nos très très proches cousins, oui? leur société tourne beaucoup autour de la sexualité et ils font de la masturbation collective, tout genre confondu. Fait que je trouvais que c'était une belle image.
Oui. Puis eux, ben évidemment, ils sont pas dépendants des préjugés,
des
valeurs d'une société, sont complètement, sont dans le laisser aller, puis il y en a pas de problème. Puis oui, t'en sais plus que moi en fait sur les animaux.
j'ai tombé sur un documentaire.
Ok. C'est bien correct quand on te respecte si tu t'intéresses à la sexualité des animaux.
Tu connais-tu les fantasmes aussi des bonobos, là?
Non, écoute, je suis pas dans la zoophilie non plus, là.
Non, mais c'est toujours très drôle, c'est parce que Sophie parlait de fantasmes, parce que, tu sais, les purs et durs, tu sais, c'est vraiment, on va dire une...
Ça sonne, hein? Pas une,
c'est vrai, c'est ça, t'es un vrai mâle! Mais, tu sais, en même temps, les fantasmes, moi, ce que j'aime dans l'explication de Sophie, c'est, tu sais, il peut arriver qu'un homme ait des fantasmes, tu sais, à plusieurs niveaux. Puis moi, je reviens souvent avec le même exemple, le fameux sénateur qui passe des lois contre les gays. Puis là, il se fait, on le retrouve dans une salle de bain avec un jeune homme. Tu sais,
Ouais, hein? Des fois, des désirs refoulés, on a comme... on voit des gens qui sont comme trop enragés pour que ce soit normal, tu sais, envers l'homosexualité. On dirait qu'ils se battent contre une partie d'eux-mêmes.
Exactement. Puis ça, je trouve que c'est une belle illustration de tous les avantages de ce qu'on est en train de parler aujourd'hui, où on est plus ouvert, les gens, c'est plus permissif. C'est comme si là, tout à coup, le fait que ce soit de plus en plus, je souhaite encore plus, mais de plus en plus accepté socialement, ben moi, je pense que ça peut éviter des situations comme ça où on doit absolument refouler parce que c'est mal vu, parce qu'on va être rejeté ou peu importe, parce qu'on n'est pas capable d'accepter cette partie-là de nous. Fait que ça, je trouve que c'est une belle façon là, de dire « Hey, ça a aussi des avantages comme population, même si toi, là, ça ne te concerne pas, mais le fait d'être respecté, d'être un allié de ces gens-là, ça te sert aussi au bout du compte. T'sais?
Ça leur évite d'être malheureux pour toute leur existence aussi, puis de ne pas être eux-mêmes.
Tout à fait, tout à fait. Donc, de ne pas être épanoui, de ne pas être dans un bien-être, là, tu sais. Le dernier, dont je viens de parler de l'orientation sexuelle, le dernier, c'est ce qu'on appelle l'orientation amoureuse. Puis, on prend la peine de le définir, celui-là aussi, parce que, vous l'aurez compris, l'orientation amoureuse, c'est vers quel sexe ou vers quelle orientation ou vers quelle identité de genre, moi, je peux développer des sentiments. Donc, là, encore une fois, si je parle de l'homme hétérosexuel qui, de temps en temps, où il y a des fantasmes homosexuels, ça ne fait pas nécessairement de lui un homosexuel, parce que cette personne-là pourrait nous dire, moi, ça m'arrive, tu sais, de trouver ça attirant ou de trouver ça excitant, mais honnêtement, ça ne m'attire pas amoureusement. Je ne pense pas que je pourrais tomber en amour. Ça, il y en a. Ça, il y en a beaucoup, tu sais. On pense, par exemple, on n'en parlera pas de façon précise aujourd'hui, mais si on pense, par exemple, au monde du libertinage, tu sais, le monde du libertinage, c'est un peu ça. C'est comme une façon d'aller explorer nos fantasmes sans s'engager de façon amoureuse.
Libertinage échangiste, c'est ça?
Excuse-moi, oui, c'est ça. C'est, okay. En fait, le libertinage, c'est un mot parapluie dans lequel est inclus l'échangisme, mais il y a toutes sortes de pratiques où les couples vont inclure d'autres personnes dans leurs activités sexuelles. Et ça permet d'aller explorer des fantasmes d'ordre, par exemple, homosexuel, sans nécessairement faire de la personne une personne homosexuelle ou bi. Il y a des termes, là, tu sais, que peut-être que ça vaudrait la peine là, que j'en parle. Là. Il y a des termes qu'on entend beaucoup. Il y a les pansexuels qui réfèrent à une orientation sexuelle. Et il y a les queer aussi qu'on entend. Des fois, on mélange les deux. Ouais, la personne qui se définit comme étant queer, c'est simplement une personne qui ne se reconnaît pas dans ce que je viens de parler. Donc, elle, que ce soit au niveau de son identité de genre, son expression de genre, son orientation sexuelle, a dit « moi, je suis différente de la norme ». Tu sais, on est dans une société, on pourrait même dire une planète, hétéronormative. Hein? C'est comme si on a tendance à penser que les personnes cisgenres, hétérosexuelles, sont la norme, donc sont mieux. Hein?
Ouais, oui. Je ne veux pas rentrer dans la religion parce que ceux qui me connaissent savent qu'on n'en sort pas. Mais notre société a grandi beaucoup dans un cadre religieux dans lequel la sexualité est indissociable de la reproduction et ne doit servir qu'à ça. Fait que j'imagine que ça vient un peu de là.
Oui, on a un bel héritage hein, judéo-chrétien, puis ça, je pense que c'est on n'est pas les seuls. D'ailleurs, même que dans la religion, si je recule de quelques siècles, le plaisir féminin était quelque chose de mal.
Ah ben oui.
Était quelque chose de, on appelait ça, je me rappelle pas de l'auteur, c'est pas Dr Tissot, lui c'était la masturbation, mais il y a un autre auteur là qui avait écrit un livre le 1700 la fureur utérine. Fait que les femmes qui éprouvaient du plaisir, c'était des folles.
Oui, donc, d'ailleurs, le terme hystérique vient de histrionie, vient de là. Fait que moi, j'essaie de l'employer le moins possible parce que, tu sais, sachant la racine du mot, ça veut plus dire ça exactement aujourd'hui, mais ça vient de ça. On attribuait des conditions médicales à la femme à cause de son utérus. Elle pouvait pas maîtriser ses émotions. Elle pouvait pas ci, elle pouvait pas ça. C'était très, très réducteur.
Et elle ne servait qu'à la reproduction.
Oui.
Donc, ça, c'était pour les cinq dimensions ou les différents concepts là, pour démêler le tout. Est-ce que ça...
C'est beaucoup plus clair. Puis, puis d'ailleurs, je pense que je vais aussi aller réécouter pour être sûr.
Oui.
parce que c'est assez non-binaire, queer. Il y en a qui sont un peu des zones grises, c'est pas nécessairement facile. Fait que là, j'imagine que avec la Il y a deux phénomènes parallèles et diamétralement opposés qu'on voit apparaître. Il y a le phénomène des drag queens et il y a le phénomène de la montée de la droite conservatrice, très proche des vieilles valeurs de la religion, puis tu sais, qui se bat contre ça. Puis pour eux, ils font toutes les distinctions que tu viens de nous expliquer si brillamment, ben eux autres, ils sont pas capables de la faire. Et pour eux autres, ils font pas de différence entre un travesti, un transgenre, une drag queen. Puis pour eux autres, c'est tout dans le domaine de la sexualité. Qu'en est-il vraiment?
OK. Encore une fois, on va faire un petit pas de recul, puis on va définir nos trucs.
Oui.
Première des choses, je pense j'allais commencer par la drag, mais je pense que je vais finir par la drag. Le travestisme, on va parler aussi du transsexualisme, mais le travestisme, là, c'est un terme, si on regarde la définition du terme, c'est le fait de s'habiller avec des caractéristiques du sexe opposé. Ça n'a rien à voir avec la sexualité. Il y a même des, encore une fois, je reviens dans mon bac, là, il y a un siècle, puis on parlait de différentes cultures où ça, c'était un rite de passage de s'habiller dans le sexe opposé, pour plein de raisons. Hein? Donc, il y a même, je crois que c'est en Inde, là, j'espère que je ne dis pas n'importe quoi, mais il y a des gens qui vont s'habiller en sexe opposé, puis ça devient, c'est comme si ces gens-là, ils ont une position sociale avantageuse. Tu sais, fait que c'est quelque chose de positif, c'est quelque chose qui n'a rien à voir avec la sexualité. Donc, je me travestis quand je m'habille en gars, même si c'est à l'Halloween, hein, je me travestis. Fait que j'ai pas envie, ça me donne pas une excitation sexuelle. Après ça, il y a le transvestisme, qu'on appelle aussi le transvestisme fétichiste.
Okay.
Ça, c'est une pratique sexuelle. Okay? Ça, c'est les gens qui ont appelons ça une tendance. Le vrai terme, c'est une paraphilie. Puis une paraphilie, c'est pas un trouble mental. Il y a pas de problème là. Donc, la personne, elle va avoir une excitation sexuelle intense et récurrente. Ce que ça veut dire, c'est que c'est vraiment quelque chose qui a un caractère assez irrésistible. Ça prend beaucoup de place dans les fantasmes de la personne. Il y en a qui aiment, par exemple, le cuir. Ben, il y en a qui aiment le fait de s'habiller avec des caractéristiques du sexe opposé, soit partiellement ou non. Là, par exemple, ça peut être porter des sous-vêtements féminins pour un homme et le contraire pour une femme. Donc, le transvestisme, ça, c'est une pratique sexuelle, c'est une paraphilie où il y a une excitation sexuelle qui est provoquée. Encore une fois, je ne parle pas des dragues, puis je ne parle même pas des trans encore. Là. On n'en parle pas beaucoup du transvestisme, mais on mélange travesti, transvestisme, ça fait qu'on pense que les gens qui se travestissent, par exemple, pour faire de la drague, parce que la drague, c'est une forme de travestisme. Hein, c'est comme si le S, il est pas, il y a comme un S de moins dans le mot. Fait que le travestisme, ça, c'est la même chose que la drague, dans le sens où la drague, c'est un art. Hein, on en parle de plus en plus, on les voit de plus en plus à la télé ou dans les médias. Donc, la drague, c'est une forme d'art. Ce sont des gens. On voit plus souvent des hommes qui le font, mais je suis convaincue qu'il doit y avoir aussi des femmes. Donc, ce sont des hommes qui s'habillent en femmes de façon, hein, on va le dire, là, c'est assez réussi. Là,
je veux dire, extravagant aussi.
C'est beau, c'est extravagant, c'est caricatural, un peu comme l'art du clown. Tu sais, le clown, ce qu'il fait, c'est qu'il va venir accentuer certaines caractéristiques avec des grands pieds ou peu importe.
C'est souvent lié à une performance,
donc,
là.
Exactement. Public. C'est lié à un spectacle, c'est lié vraiment à une expression. Donc, comment est-ce que je peux exprimer ma créativité? Tu sais, donc, ça, c'est la drague. Fait encore une fois, drague n'est pas égal, un, à trouble mental, ça n'a rien à voir, puis drague n'a rien à voir avec la sexualité. Les gens mélangent la sexualité, le sexe, avec l'expression de genre, tu sais.
C'est ce qu'on voit le plus dans le phénomène là, des gens qui se battent contre eux. Je pense que la distinction qui vient d'être expliquée profiterait. Cette explication-là profiterait tellement à certaines personnes que j'ai en tête, notamment qui tiennent des pancartes devant des bibliothèques.
dans toute cette histoire-là, en plus de ça, j'ai souvent entendu des gens dire « Ah, les dragues, c'est des homosexuels qui s'habillent en femmes. Mm-hmm. » Mais par définition, ils n'ont pas à être homosexuels. T'sais, c'est le même raccourci que certains prennent en disant t'sais, drague égale pédophile. Non, ça n'a pas rapport. T'sais, c'est dans le spectre il y a des gens qui ont des filies quelconques, il y a des gens qui aiment se déguiser en clown, puis il y en a d'autres qui aiment ça se déguiser en bleuet. Pis,
Mais encore aujourd'hui, on voit beaucoup de gens, puis je me rappelle d'une manifestation où quelqu'un prenait la parole, puis on nommera pas parce que c'est pas le but de cette entrevue-là, mais faisait l'amalgame entre homosexualité et pédophilie. Il disait, ah ben, ça doit être des homosexuels, fait que ça doit être des pédophiles. T'sais, pour lui, c'était la même chose. Là. C'est sûr que en 2023, ce niveau d'ignorance-là est quand même plus rare, mais ça existe encore.
Ça existe encore, puis c'est juste la suite des choses, là, dans le fond, de faire l'amalgame entre la drague puis la pédophilie. C'est juste une suite des choses. T'sais. Puis si je peux faire un petit détour.
Absolument.
La pédophilie, c'est un trouble paraphilique, c'est un trouble mental. OK, retenons pas ça, le trouble paraphilique, ça devient un peu complexe, mais c'est un trouble mental. C'est un trouble mental parce que, évidemment, ça implique... Parce que quand on définit un trouble mental, là, souvent, ce qu'on va dire, c'est il y a différents symptômes, il y a différentes caractéristiques, et après ça, ce qu'on va dire, c'est ça devient un trouble mental si ça cause une détresse psychologique, donc une souffrance qu'on appelle cliniquement significative. Donc, la personne, elle va soit, elle peut même être suicidaire, elle va être dépressive, anxieuse, ça va vraiment la faire souffrir. Ou une altération du fonctionnement. Par exemple, la personne va avoir de la difficulté à garder un emploi, la personne va avoir de la difficulté à être en couple, à avoir des relations affectives.
Ou faire des victimes.
Et ça, c'est le troisième.
Ah, okay.
Donc, le troisième, c'est que ça va impliquer, ça va faire en sorte que la personne va commettre des délits. Parce que ça peut faire une victime, comme dans le cas de la pédophilie, on pense à des enfants prépubères, mais ça peut aussi, il peut y avoir d'autres sortes de troubles paraphiliques, par exemple, qui vont amener la personne à commettre des vols ou d'autres choses. Okay? Mais là, on va s'en tenir à la pédophilie. Fait que la pédophilie, c'est un trouble mental. D'ailleurs, là, dans les médias, à chaque fois qu'on parle, par exemple, d'un procès ou d'une personne qui s'est fait arrêter pour avoir abusé d'enfants, dans les médias, on l'appelle toujours pédophile. Mais ça, c'est pas vrai.
Ah.
Il y a des gens, ça peut être un peu complexe, mais il y a des gens qui vont abuser ou agresser sexuellement des enfants qui ne sont pas pédophiles. Parce que la pédophilie, c'est un trouble de santé mentale et ça, on doit répondre à certains critères. Mais là où ça vient... Là, c'est sûr que tu sais, je vous parle comme clinicienne. Là où il y a une nuance, ça va justement être dans comment on va aider cette personne-là si elle veut changer. Mais par exemple, il y a des gens qui vont agresser des enfants parce que c'est une opportunité. Donc, ils sont plutôt le type opportuniste. Eux autres, ils vont agresser, point.
OK, quiconque, sans distinction.
Tu sais, t'es là, j'ai la motivation, j'ai l'opportunité de le faire. Je pense, par exemple, aux parents qui font de l'inceste sur leurs enfants. Ils sont pas pédophiles. Il y en a peut-être qui sont, là, mais ils sont pas tous pédophiles. Tu sais, il y a l'opportunité. Il y a aussi, évidemment, là, un paquet de croyances erronées, là, tu sais, là, un peu, c'est tordu, là, tu sais, on rentre un peu dans le tordu. Donc, ça a rien à voir. Il y a pas plus, d'ailleurs, quand on regarde dans les études, les pédophiles homosexuels, il y a le même, on pourrait dire que c'est la même proportion que dans la population. Donc, on pourrait penser, là, on parle autour de 10 %, là, en tout cas, ça fait un bout de temps que je peux aller voir dans les études, mais.
Donc, il n'y a pas une plus grande proportion d'homosexuels qui sont pédophiles que d'hétérosexuels.
Exactement.
Ça vient d'annihiler toutes les amalgames qu'on entend.
Exactement. Puis, en plus, mon échantillonnage n'est pas très représentatif parce que là, je vais vous parler de ma pratique. Moi, j'en ai vu, j'en ai aidé des gens à qui on pouvait donner le diagnostic de pédophile. Moi, j'en ai jamais vu, là, des dragues, c'est monsieur, madame, tout le monde, là. Tu sais, ils ont l'air de ce que vous avez l'air, là. Tu sais, c'est vraiment des gens qui se fondent. Fait que quand on focus sur homosexuel égale pédophile ou drague égale pédophile, ben peut-être qu'on se met des œillères puis qu'on regarde pas, tu sais, puis peut-être que ultimement, ben comme parents, est-ce qu'on va essayer de protéger nos enfants en les sensibilisant en disant approche-toi pas des monsieur qui se déguise en madame, hein, ou puis qu'on va tout oublier.
On mange beaucoup des préjugés, hein, dans la société. Ben, tu sais, un pédophile, exactement. C'est quelqu'un avec un trench coat qui se promène dans un parc avec les cheveux gras puis des lunettes double pont. Puis un homosexuel, c'est quelqu'un qui parle sur le bout de la langue, les baguettes en l'air. On marche beaucoup des étiquettes. Puis faut dire que les médias, la télévision, l'art a aussi un peu renforcé ces étiquettes-là.
Oui. Alors là, c'est-tu réglé, là? Les dragues n'ont rien à voir avec les pédophiles, puis les dragues n'ont rien à voir avec l'agir sexuel, avoir envie de se montrer les foufounes ou d'ailleurs, ça aussi, c'est un autre bout que je comprends pas. T'sais, les gens vont dire mais qui retournent dans les clumes parce que quelqu'un se montre les fesses. Ou, mais même quand on va, là, je sais pas si vous avez déjà vu un spectacle de drag queen. Moi, j'en ai déjà vu. J'en ai pas vu de fesses. Ils ont des robes flamboyantes, tout ça. Ils sont pas dénudés, ces gens-là. T'sais?
Mais moi je suis jamais allé, puis j'ai peut-être une image un peu primaire de la chose, là, mais moi, dans ma tête, là, c'est Dalida. C'est quelqu'un qui chante une chanson de Dalida, puis il n'y a rien de sexuel là-dedans. Puis mon ex-copine allait souvent voir ça avec ses amis. Il y avait du fun, puis tout ça. Puis il filmait des bouts, puis j'ai jamais rien vu de sexuel ou d'allusion sexuelle. D'habitude, c'est des personnages qui sont un peu grotesques dans leur agir. Là, t'sais, ils vont parler à la foule, puis ils prennent un personnage qui est très, très éclaté, très exagéré, mais j'ai jamais remarqué de dimension sexuelle là-dedans. Mais il faut dire que j'en ai pas fréquenté, mais ce que j'en sais, Dalida.
Ben, c'est comme, moi, l'exemple que j'ai souvent donné, c'est, imagine, on va tous les trois chanter du karaoké un soir donné. Ben, les drags, c'est la même chose. Ils vont chanter du karaoké, ou vont faire du lip-sync, ou ils vont faire des numéros de clown, de jonglerie, habillé avec un accoutrement qui n'est pas dit normal.
Puis si on la voit trop grave, ils vont choisir Dalida. Moi, je pense que c'est ça. Le choix de Dalida, c'est parce qu'elle a une voix assez grave qui est plus facile à imiter pour des hommes.
Quoi qu'elle fasse souvent du lip-sync, à moins que je ne m'abuse, ce que j'ai vu, c'était souvent du lip-sync. Donc,
Mais il y en a qui peuvent aussi chanter. Tout à fait. Puis, tu sais, l'exemple de croire que toutes les dragues sont méchantes, vont faire de l'humour, du sarcasme, oui, dans les clubs, c'est comme ça, mais pour certaines, mais c'est pas toujours comme ça. Ça fait pas partie de... Puis l'exemple de, tu sais, qui retourne d'un bar, la meilleure réponse que j'ai entendue, les drag queens sont dans des bars, pas parce que c'est des drag queens, c'est parce qu'il y a de la boisson qui est vendue. Mm. Quand il y a le festival, la semaine de la fierté à Montréal, les drag queens sont sur les stages comme les artistes du festival de jazz ou des francopholies.
Et maintenant, dans les bibliothèques.
Ben oui.
Hein? Ben oui, tiens, parlons-en des bibliothèques. C'est quoi le pourquoi du comment de cette démarche-là d'employer des drag queens ou ben cette motivation-là des drag queens d'aller raconter des histoires aux enfants? Tu sais, je sais qu'il y a une intention d'enseigner la diversité, mais est-ce que c'est urgent ou ben à partir de quel âge doit-on parler de diversité de genre, d'orientation sexuelle ou de juste de comment on a le goût de s'habiller? À partir de quel âge il faut régler ça? Moi, je suis en contact avec les enfants de ma conjointe. On a déjà posé la question. Penses-tu que tu vas plus avoir un chum ou une blonde? Je sais pas. Ah, bon, ben, OK. Puis on n'a pas insisté là-dessus. Du moment, il va le savoir. C'est tout.
Puis quel âge, disons?
Moins de 10 ans, là. 9 ans. Puis on 9-10 ans. Puis on se demandait, on se posait juste la question. Fait qu'on a posé la question ouvertement comme ça. Puis il n'y avait pas eu de malaise ni rien. Puis d'ailleurs, tu sais, un de ses amis a deux papas. Puis on n'a pas eu besoin de sensibiliser ou d'expliquer quoi que ce soit. C'était deux papas. Ça le dérangeait pas. Puis on n'a pas eu à expliquer que ça se peut avoir deux papas. Puis j'ai l'impression que de façon innée, les enfants sont peut-être ouverts à ça. J'ai l'impression que c'est plus les adultes pleins de préjugés qu'il faut éduquer. Ça se peut-tu?
Ben, je suis tout à fait d'accord avec toi. À partir de quel âge les enfants se posent des questions? Là, il faut que je vous ramène à mes fameuses dimensions de la sexualité parce qu'on a souvent une vision très réductrice. Par exemple, quand on parle d'éducation à la sexualité, si vous voulez, je vais y revenir à ça. Mais la sexualité, il y a tout l'aspect biologique, mon corps. Il y a l'aspect affectif, tu sais, le fait d'exprimer des émotions, le fait de gérer mes conflits, le fait de me sentir bien, le fait d'être en relation, j'aime mon père, j'aime ma mère. Fait que les enfants, dès la petite enfance, donc avant l'entrée à la maternelle, là, à partir du moment, plus le développement psychosexuel, là, il part de la naissance.
OK.
En fait, là, c'est sûr qu'à la naissance, on s'entend là, qu'il n'y a pas grand pensée là, dans la tête d'un enfant, mais au niveau biologique, il y a le corps humain est construit du fait qu'au niveau biologique, il pourrait ressentir du plaisir sexuel, il pourrait même y avoir un orgasme s'il y a évidemment stimulation. Un bébé ne va pas se stimuler, mais pour ceux qui ont eu des enfants en bas âge, vers l'âge de 2 ans, peut-être quand ils portent plus de couches, là, ben c'est pas rare de voir, par exemple, un petit garçon ou une petite fille qui va soit avec sa doudou, se caresser les organes génitaux, soit jouer avec son pénis, comme une fois qu'on peut entendre « Arrête de jouer avec ton pénis », tu sais, ben. Hein? C'est
moi,
ça.
Je l'ai pas vécu, mais tu sais, j'ai entendu « Oh, t'es mec dans tes culottes », c'est comme une phrase typique qu'on dit.
Alors, tu sais, là, déjà, si je disais à mon enfant « Ôte ta main dans tes culottes », mais que, par exemple, je donne pas d'alternative, puis là, je suis pas en train de dire qu'il faut absolument faire ça, là, chaque parent a ses habiletés, mais, par exemple, de dire à l'enfant « OK, là, je sais pas moi, Mathieu. Là, Mathieu, quand on est à l'épicerie, tu peux pas jouer, tu peux pas mettre ta main dans ta culotte. Est-ce que tu vois des gens autour qui ont de la main dans la culotte? Non. Mais quand tu es dans ta chambre tranquille, tout seul, c'est correct. Là, je viens d'apprendre à mon enfant que de toucher ses organes génitaux, c'est quelque chose de privé. Mon enfant, il va pas dire à 3-4 ans, « Oh, ça, c'est privé. » Il va faire, « Oh, il y a quelque chose de spécial avec le fait de jouer avec mon pénis. » C'est, fait que l'éducation sexuelle puis la sexualité, elle est présente dès le bas âge.
Mais est-ce que c'est sexuel pour lui? C'est juste comme une sensation agréable qui se donne puis ça va pas plus loin que ça parce que j'imagine qu'il n'y a pas de...
Ça, c'est une nuance importante à faire aussi là, puis qui est très intéressante parce que avant la puberté, l'enfant ne va pas associer le plaisir physique, par exemple, qu'il va éprouver à toucher son pénis ou à caresser sa vulve, il va pas l'associer avec une sexualité qui va être portée vers autrui.
Il y aura pas de fantasme d'avoir nécessairement envie rattaché à ça. C'est purement physique, là, mécanique.
Exactement. Okay. Fait qu'il va probablement répéter le geste parce que ça fait du bien. Puis vous le savez comme moi, je vous souhaite que ça vous soit déjà arrivé d'avoir des orgasmes. C'est le plaisir sexuel, ça nous détend. Ça diminue le stress. Si on le fait avec quelqu'un d'autre, ça nous fait nous sentir proches, ça nous fait nous sentir aimés, acceptés. Fait que le plaisir sexuel chez un petit coco de 3 ans, c'est juste le fun. C'est comme quand on lui joue dans les cheveux puis qu'il aime ça ou quand on lui fait des petits châteaux et puis que là, il se détend, tu sais. Fait que c'est à ça que c'est associé, point barre.
Puis de façon sociale, on a appris à réprimer quelque chose qui finalement est bénéfique. Dans les cas les plus extrêmes étant la circoncision et l'excision, là, tu sais, pour limiter le plaisir, parce qu'on a appris de façon culturelle, dans différentes religions, que c'était mal.
Exactement. Exactement. Bon, on parle pas de circoncision, c'est ça, tu sais, on parle de circoncision, mais on parle aussi des femmes, tu sais, à qui, je me rappelle, c'est quoi le terme, donc, là,
l'excision?
Oui, c'est ça.
Oui, c'est ça, ben, j'ai nommé les deux, la circoncision et l'excision.
Ah, excuse-moi,
l'excision
étant
beaucoup plus extrême que la circoncision, mais c'est la même fonction. Sauf que si on voulait la rendre égale, j'imagine qu'il faudrait couper le gland au complet pour équivaloir à une excision. Là. Mais,
exact.
Mais le but était le même, c'était de la privation de plaisir sexuel.
Entre autres, exact. Donc, on va parler de sexualité. Les enfants vont se poser des questions sur leur sexualité dès la petite enfance. Ça, c'est quelque chose qui... Ça, là, c'est canné. On peut pas en faire autrement. Fait que c'est sûr que si le parent il donne pas l'espace ou il répond pas aux questions, il va aller chercher ses réponses ailleurs. On va commencer à parler de là, on n'a pas encore dit, bon, par rapport au transgenre, à la transsexualité, j'ai sorti le tableau synthèse des objectifs puis des thèmes abordés dans les écoles avec le ministère de l'Éducation. Okay. Puis j'ai fait comme des highlights justement pour démontrer que c'est pas parce qu'on fait une éducation à la sexualité qu'on apprend aux enfants comment faire le sexe ou comment avoir des activités sexuelles. On parle pas de ça, pas en tout. On veut respecter le développement psychosexuel des enfants, puis non seulement ça, c'est que parce que la sexualité a plusieurs dimensions, dont je vous en ai parlé de quelques-unes, ben c'est ces dimensions-là qu'on aborde. Fait que
C'est bon de démystifier ça parce que j'entends tellement de gens, surtout dans la droite ou dans une certaine catégorie de personnes qui soit disent que c'est des cours de sexe, de comment faire de sexe, et il y en a encore pire qui disent que ça, c'est des cours de gays. Puis là, les gays sont pas en recrutement. Là. On peut-tu régler ça? Là?
Non. Puis même quand on en parle, vers la fin du primaire, on va commencer à parler, mais l'angle qu'on va avoir, c'est pas c'est le fun d'être gay, c'est le fun d'être trans, puis go,
ben non,
go,
c'est
go,
ça, c'est
tout
pas
le
de la
monde,
promotion,
essayez
là.
Ça. C'est pas de la promotion, c'est de la prévention. On va parler d'homophobie, on va parler de transphobie, on va parler aussi de sexisme, parce que malheureusement, ça existe encore. Mmh. Donc, on va parler de respect. On va aborder ça sous l'angle de, il y a des gens qui sont différents, On les respecte, ils ont des droits. Fait que c'est comme ça qu'on l'aborde. On n'est pas en train de dire que c'est cool. Au contraire, moi, je vous mets au défi de trouver quelqu'un, par exemple, qui est homosexuel ou même qui est trans, puis que lui, il a choisi ça, que c'est un choix de vie, puis que lui, il est bien content. Il en souffre tous. Puis je suis convaincue que si on leur demandait, la grande majorité nous dirait « Hey, si j'avais pu, j'aurais été hétéro, c'est genre, tu sais, parce que c'est bien moins de trouble. »
Dans la société, t'sais. C'est. Puis j'imagine que c'est aussi pour, tu sais, quand tu parles de prévention, c'est pour que si ces jeunes-là, finalement, s'identifient, réalisent qu'ils sont homosexuels, qu'ils sachent qu'ils ne sont pas, sont peut-être différents, mais ils ne sont pas anormaux, tu sais.
Exactement. Donc, on va aller, c'est à ça que ça sert. Ça sert à faire des adultes. Hein, l'éducation à la sexualité, ça sert à faire des adultes qui vont être des partenaires amoureux, respectueux, égalitaires, puis qui vont avoir une sexualité le plus épanouie possible. Bon, hein, si je voulais faire un résumé de ça, on appellerait ça le bien-être sexuel ou le bien-être amoureux. Fait que les petits cocos de maternelle, là, on leur parle pas de fellation, on leur parle pas de comment leurs parents font l'amour. Là. On oublie ça. Ce qu'on leur dit, c'est les garçons ont un pénis, puis les filles ont une vulve. Fait que le petit garçon qui se demande, ça, je suis sûr qu'il y a des parents qui vont se reconnaître. Là, tu sais, il y a plein d'enfants qui vont dire, mais pourquoi maman, elle n'a pas de pénis? Tu sais, ils s'en posent des questions. Alors qu'on sait que c'est pas qu'on n'a pas de pénis, c'est juste qu'on a d'autres choses. On a quelque chose, nous autres aussi. C'est ce que j'ai dit à mes enfants. Fait qu'on va aborder les parties du corps. On va aborder l'expression de ses besoins, l'expression des sentiments. Puis qu'est-ce qu'on va faire aussi dès le début du primaire? On va parler de prévention des agressions sexuelles. On va pas leur dire, il y a des gens en trench coat sur le coin de la rue qui t'attendent, là. On va leur dire, tes parties intimes, tes parties privées, c'est juste à toi. Il y a personne qui a le droit d'y toucher. Ça, c'est un exemple. T'sais, bon, sauf maman qui t'a... T'sais, vous comprenez un peu l'idée, là. C'est qu'on va permettre aux enfants de se protéger des agressions sexuelles en sachant qu'il y a personne qui a le droit de leur toucher s'ils sont pas d'accord ou si c'est pas dans un contexte, par exemple, pour se laver, tout ça. Fait que si, il y a aussi tout, il y a la question des secrets. S'il y a un adulte qui te dit, les secrets qui font mal, qui sont durs à porter, c'est pas des beaux secrets. Il faut en parler à son parent ou à quelqu'un en qui on a confiance. Fait que c'est, on est vraiment dans cet angle-là. T'sais, dès le début, là, du primaire.
Fait que c'est ce qui est là, vu pour, par certains réactionnaires comme une agression mentale pour les enfants, c'est tout à fait le contraire. C'est une protection. C'est pour les protéger aussi. Puis leur apprendre un peu aussi, j'imagine, comment fonctionner en société. Je sais qu'il y a des enfants qui sont très exhibitionnistes, puis tout ça. Puis là, ben, il faut leur expliquer que, gars, ça, c'est le mot intime. C'est intime, oui. Ça veut dire pour toi seulement.
Exactement. Ou pour ceux avec qui tu as envie de le partager, mais ça, on n'en parle pas au primaire. On parle pas de ça. Il y en a rien à tirer de ça.
Au centre d'achat, s'il
vous plaît. Ouais, au centre d'achat, c'est pas, au Toys R Us, c'est pas à la place de se mettre en bobette puis baisser ses culottes puis courir, là.
Fait qu'on ose espérer que si l'enfant vit une situation comme ça puis qu'il a reçu de, tu sais, on parle d'éducation à la sexualité. On n'est pas en train de dire éducation sexuelle. Tu sais, il y a comme une nuance entre les deux. Fait que l'enfant qui a reçu de l'éducation à la sexualité, ben, peut-être que lui, il va voir cesser le comportement, peut-être parce qu'il va pouvoir en parler à quelqu'un. Tu sais, donc c'est à ça que ça sert, tu sais, être respectueux avec les autres. Je pourrais continuer longtemps comme ça. L'agir sexuel, là, le fait d'avoir des activités sexuelles là, avec soi-même ou avec autrui, ça commence quand? Ça commence autour de l'adolescence, le désir d'avoir une sexualité avec quelqu'un d'autre.
Là où c'est plus juste mécanique de se taponner puis de.
Là, on commence à. Ça, on en parle à partir à peu près du secondaire 2. Je dis à peu près là, parce que ça doit dépendre là, au niveau des écoles, mais bizarrement, ça correspond à 13-14 ans. Ah, tiens donc, c'est le début de la puberté, les hormones kick-in, hein, la testostérone, tout le kit, et le désir apparaît, les fantasmes apparaissent. Fait que si on n'en parle pas, ben le jeune, il va se développer comme il peut. D'ailleurs, on sait que la moyenne d'âge de la première exposition à la pornographie, savez-vous c'est quoi?
Oh, aujourd'hui, ça doit être peur, hein? C'est pas ça que je veux l'entendre.
J'ai combien?
Ah, ça doit être de façon outrageusement jeune, là. Ça doit être assez peur, hein?
C'est 11 ans. 11 ans. Oui, 11 ans. Puis j'ai vérifié en France pour un autre projet que je faisais. Puis en France, c'est la même chose. Tu sais, les études disaient, autour de 11 ans, l'enfant, on sait qu'il a déjà, dans la majeure partie des cas, été exposé à la pédophilie, ça va bien, à la pornographie.
Ça, c'est une mauvaise nouvelle.
Je retire mes paroles.
Dans mon temps, à 11 ans, là, c'était les catalogues Sears avec la section des brassières. C'était ça, la pornographie qui était disponible.
Alors que là, imaginez ça, à quoi il a accès. Ah, c'est, le jeune, c'est pubère, là, parce que... Exact.
Sur Internet, mais je veux dire, on peut voir les déviances les plus extrêmes dans deux clics, puis sans que notre âge soit vérifié. Puis je trouve ça, si j'étais père, j'aurais peur de ça. Je ne saurais pas comment dealer avec ça, parce que tu peux pas être toujours à côté de ton enfant. À un moment donné, là, tu vas être ailleurs, il va avoir ton ordinateur, il va aller chez un ami, quelqu'un va lui montrer ça. Ça va arriver. Mais là, comment on deal avec ça?
Mais en fait, en même temps, le catalogue Sears, sans dire que c'était de la porno, là, mais l'éveil sexuel, ou je vais essayer d'être rigoureux dans mon discours parce que Sophie est là, l'éveil à la sexualité, au sexe, ben, le catalogue Sears a servi à ça pour plusieurs petits garçons et peut-être plusieurs petites filles. Et peut-être,
c'était une bonne première étape.
Oui, parce que l'enfant n'est pas exposé à des images qui sont trop vieilles pour lui, là, tu sais.
Ouais, des pratiques trop avancées un peu, là.
Exactement, qui vont être traumatisantes, tu sais, de voir, par exemple, des pratiques à trop. Peu importe, là, tu sais, on pourrait en nommer plein. Ça, c'est beaucoup plus traumatisant pour un enfant qu'une belle femme en soutien-gorge, tu sais.
Oui, puis il faut dire que dans la pornographie, tu sais, c'est rare qu'on échange des paroles d'amour, je vais le dire comme ça.
Oui, exactement. Puis c'est rare qu'on ait des relations égalitaires. Non, aussi. C'est ça. Ça, c'est l'autre. Donc, on parle d'agir sexuel à partir de l'adolescence et on parle aussi de santé sexuelle, tu sais, TSS, grossesse. Là, on va commencer à être plus spécifique, mettons, plus graphique dans nos explications, mais on fait ça quand que l'enfant de toute façon, ben là, je devrais dire l'adolescent, de toute façon, il va le faire anyway, tu sais.
Bon, fait qu'il est prêt,
c'est aussi. C'est ça. Fait que c'est aussi la job des parents, mais l'école devrait, avec ce programme-là, devrait aussi combler puis participer à ça. Puis les adolescents, là, moi, j'en vois beaucoup d'adolescents, ce dont ils veulent le plus parler, ce dont ils aiment le plus parler, c'est pas de l'agir sexuel, c'est des relations amoureuses. Donc, à partir de la secondaire 3, essentiellement, on parle de relations amoureuses, prévention de la violence amoureuse, de la violence sexuelle, beaucoup de prévention tout au long du secondaire. Fait que ce sont des thèmes qui reviennent. Fait que par exemple, on ne va pas en parler en secondaire 3 de la même façon qu'on va en parler en secondaire 5. Fait que des thèmes qui sont cohérents avec le niveau de développement du jeune. C'est aussi simple que ça, puis qui vise à faire des adultes qui sont respectueux puis qui vivent avec un bien-être sexuel, qui s'épanouissent le plus possible. Fait que c'est ça l'éducation à la sexualité. Alors, il faut arrêter de dire, par exemple, qu'on va faire de nos enfants ou on va exposer nos enfants à des trucs qui sont pas de leur âge. C'est le contraire. Si on n'en fait pas d'éducation, c'est là. De toute façon, ils vont être exposés.
Ouais, ils vont découvrir par eux-mêmes, puis la façon dont ils découvrent ça en 2023, c'est pas de la même façon dont on découvrait ça dans le début des années 80 avec le catalogue Sears ou un Playboy où on voit quelques seins puis quelques fesses. Maintenant, tu sais que sur Internet, c'est parce que justement là, tantôt on a fait une allusion au sujet du sexe égalitaire. C'est pas ce qu'on voit dans la pornographie, là, tu sais. Puis des fois, c'est carrément violent, là. Puis un enfant qui est exposé à ça en jeune âge, quelle sorte d'image il va avoir, puis comment on essaie d'expliquer ça. Tiens, je vais poser la question. Si un enfant découvre ça, il est tombé sur un site pornographique, puis il y a des pratiques un peu heavy metal, là. Comment on explique ça, que c'est pas la vraie vie, là, ça se passe pas comme ça du tout, là?
Il y a un principe de base en éducation à la sexualité qui dit qu'on répond aux questions des enfants sans en donner plus que le client y en demande. Ce que ça veut dire, c'est qu'il faut s'adapter au niveau de développement. Je vais pas expliquer ça à un de façon, tu sais, pareil à un enfant de 7 ans versus un enfant de 12 ans. On espère que l'enfant il a 12 ans parce que à 7 ans, c'est un peu plus compliqué à expliquer. Fait qu'en respectant son niveau de développement, puis ça, là, les parents, ils n'ont pas besoin d'être sexologues. Les parents connaissent leurs enfants, ils savent, tu sais, qu'est-ce qu'ils sont capables, tout ça. Puis de toute façon, si on répond à la question de façon non satisfaisante, ça veut dire que l'enfant, il n'y a pas réponse, il va en poser d'autres des questions. Mm-hmm. Ça, on peut faire confiance à nos enfants là-dedans. Okay. Fait que c'est sûr que tu as nommé un aspect important, c'est de leur expliquer que la pornographie, ça correspond pas à la réalité, ça sert à quelque chose, mais ça sert pas à apprendre. C'est pas comme ça qu'on fait l'amour, c'est pas comme ça qu'on a des relations sexuelles. Puis que malheureusement, comme dans les films, moi j'aurais tendance, par exemple, mettons que l'enfant il a, mettons, je sais pas moi, 10-12 ans, j'aurais tendance à comparer ça avec des films d'horreur. Tu sais, des fois dans les films, on voit des affaires qui existent pas ou on voit des affaires qui nous font peur parce que les gens, ils trouvent ça excitant, puis pas excitant dans le sens sexuel, mais excitant dans le sens de amusant, de voir des choses qui leur font peur.
L'exagération des situations, des personnages exagérés. Puis
j'aurais tendance à voir avec évidemment, il y a un petit bout aussi où je peux peut-être lui demander comment est-ce qu'il se sent. Je peux peut-être lui demander comment est-ce que lui a perçu ça, comment est-ce que lui a vécu ça, puis voir avec lui. Tu sais, parce que évidemment, s'il dit « Arc, j'ai pas aimé ça, ça m'a écœuré », ben donc je comprends que t'as pas envie d'y retourner. Comment qu'on va faire pour que tu arrives pas? Parce que des fois, ça leur pop. Hein? Moi, j'en ai vu des jeunes adolescents qui ont eu accès à de la pornographie parce que ils jouaient à un jeu, mettons, tu sais, sa console à leur frère ou sur l'ordinateur, plutôt sur l'ordinateur à leur frère, grand frère. Puis là, pouf, ça pop, où ils se retrouvent dans un historique de navigation. Puis là, ils voient, ça attire leur curiosité. Fait que on le sait qu'ils peuvent, sans le vouloir, avoir accès à des trucs comme ça. Fait que de voir avec eux, puis si jamais ça t'arrive encore, tu sais, viens m'en parler, je te chicanerai pas, je vais essayer, tu sais, de te rassurer, etc., etc. Il
ne faut pas lui dire qu'il a fait quelque chose de... Ça, c'est mal, là, parce que on culpabilise, puis j'imagine que c'est pas très, très bon.
Exact.
Ce que je trouve sympathique avec l'espèce d'exemple du film d'horreur, c'est que pour certains, ou à un bas âge, ça pourrait être perçu comme un film d'horreur, alors qu'en vieillissant, ça devient un film de super-héros!
Tout à fait! Tout à fait!
C'est très drôle, ça!
Tout à fait!
En terminant, on va te laisser aller parce que j'imagine que tu as une vie bien remplie, autre que de participer au crachoir. Je te remercie d'avoir été là parce que ça clarifie beaucoup de questions. Puis on va se laisser sur ta réponse à la question suivante, si tu veux y répondre, sinon c'est pas grave.
OK.
Qu'est-ce qui est le plus au détriment ou le plus traumatisant pour un enfant? Est-ce que c'est d'assister à l'heure du compte avec Barbada ou de voir des adultes crier de façon haineuse sur le bord de la rue en arrivant?
Ben, je ris parce que vous avez déjà la réponse à cette question-là, hein, clairement. Puis c'est intéressant la façon que tu l'amènes parce qu'on le sait là, que Barbada, là, puis tu sais, moi, Barbada, je la connais pas personnellement. Mais j'ai vu une émission qu'elle a fait sur Internet. Là, je pense que c'est sur le site de Radio-Canada. C'est incroyable. Son univers est beau. Son univers est dépourvu de méchanceté, de malveillance. Tout ça. Fait que l'enfant, lui, quand il va voir Barbada et raconter une histoire, là, c'est ça qu'il voit. Puis, il y a même des cas, puis là, je vais faire encore une comparaison, mais tu sais, on sait aussi que les enfants qui sont victimes, par exemple, d'abus ou d'agressions sexuelles, l'impact que ça va avoir sur lui est aussi dépendant de la réaction des autres qui ont autour. Fait que des fois, si les parents réagissent ou l'environnement autour réagisse de façon ultra négative, ça va être beaucoup plus traumatisant pour l'enfant. Fait que les gens qui pensent qu'ils font le bien en voulant sortir Barbada des bibliothèques, là je parle de Barbada parce que j'en connais pas d'autres qui en font, ben vous faites encore plus de mal, vous nuisez encore plus aux enfants parce que c'est ça qui les traumatise. Donc,
Moi, je dirais à ces gens-là, rappelez-vous dans les années 90, vous avez tous aimé le film Madame Doubtfire où Robin Williams se déguise en femme pour pouvoir avoir la garde partielle de ses enfants. Puis à la fin, la fin heureuse de ce film-là, c'est que Robin Williams prend son personnage de Mrs. Doubtfire et il raconte des histoires aux enfants à la télévision. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Sophie.
Ben, ça m'a fait plaisir d'avoir fait ma part.
Sophie est sexologue et elle vient donc de nous clarifier plein d'affaires. La suite du crachoir après ceci.
Dictature! Dictature!
Dictature!
Dictature!
Pour provoquer la haine!
Je vais vous en donner du steak. Pour ne pas dire le deep steak.
Écoutez le crachoir, mais tabarnak!
Le crachoir, épisode 243, Amalgame douteux. Crime, c'était donc bien intéressant, cette entrevue-là. Hein?
C'était magique. Et comme j'aime dire, je vais me coucher, moi, niaiseux. Je comprenais plusieurs... Mais tu sais, d'avoir toute la partie, bon, l'identité, le genre, le style. Mais tu sais, aussi, il y a le côté sexuel. Mais en plus de ça, le côté affectif, tu sais. Fait
Puis même quelqu'un le côté artistique.
Ben oui.
Non, c'est tu sais, je pense qu'on est assez grand pour être capable de s'informer, mais se le faire expliquer par une professionnelle qui est là-dedans tous les jours, dont c'est tu sais, qui a la formation pertinente et qui est une aussi bonne vulgarisatrice, sans être vulgaire, je trouve que c'était, en tout cas pour moi, ce fut très profitable, puis je pense que pour l'ensemble des auditeurs, ça l'est aussi, même si je pense que dans notre auditoire, on est de façon majoritaire, pas mal tous sensibilisés. C'est le fun d'avoir des détails. Puis moi, j'en ai appris. Toi, t'en as appris. Je pense que tout le monde en a appris un petit peu. Puis surtout, elle est vraiment intéressante. On remercie beaucoup Sophie de s'être joint à nous. Et joint à nous, en tout cas, je le conjuguerai plus tard.
D'avoir été des nôtres.
Merci. On va quand même faire une petite poutine, même si Martin n'est pas là. Je veux juste vous dire que on a encore un Patreon, puis c'est encore avantageux d'y être pour accéder à du contenu exclusif et aussi à la mystique chambre froide. Vous allez sur Patreon/crachoir. Il y a plusieurs niveaux d'abonnement. Il y en a un qui est très, 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 très cher, mais il s'adresse juste à deux personnes. Puis, tu sais, si vous êtes pas millionnaire, oubliez-le. Mais il y a quand même un niveau très intéressant qui s'appelle Allstate, qui va vous permettre, en fait, d'assister aux enregistrements et assister aux shows avant tout le monde. Et évidemment, ben, n'importe quel niveau de contribution à Patreon donne accès au contenu exclusif et à la chambre froide de ce petit vase clos où on s'amuse à jaser entre nous autres. Et aussi, évidemment, Touski TV. Écoute, notre programmation qui ne cesse de s'étoffer et d'ajouter des émissions. D'ailleurs, le quid spécial qui s'en vient. Hein?
Ouais, ben là, on n'a pas encore fait la mise en place de tout ça, mais étant donné que MDD n'est plus, on a décidé de faire des montages, des archives et tout ça se représenter en partie au cours de la semaine. Mais le week-end prochain, on se prépare quelque chose de gros. Et c'est très drôle parce que là, je suis à assembler des diaporamas de tout ce qui a été publié sur MDD. Et figure-toi donc, il y a un mois, en septembre 2021... Dans le mois, il y a eu 245 publications sur MDD.
Ah, quand même, hein? c'est d'ouvrage, hein?
Oui, à 10 secondes, la slide, ça fait 25 minutes juste pour un mois. C'est pas pire.
Ah, ça va être toute une rétrospective, hein? Ouais. Il va y avoir de tout et de tout aussi. Je pense que ceux qui vont s'être joints à nous un peu plus tard et qui ont reconnu MDD vont avoir un très bon aperçu de ce qu'on fait depuis le début et jusqu'à la toute fin.
Absolument.
La toune de la semaine m'a été envoyée par une pieuvre, imagine-toi donc.
Aïe.
Un certain Kraken, puis tu sais, c'est le même genre de tune que tu m'envoies régulièrement aussi, puis qu'on a déjà diffusé comme ça. Celle-là, pour vrai, est venue me chercher. Je la trouve vraiment solide, vraiment bonne. Un, je suis un fan de Metallica, et je suis un fan de ZZ Top, et puis quand on met les deux ensemble, ça donne des affaires bizarres. Et là, quelqu'un s'est amusé à prétendre, je sais pas dans quel univers parallèle il vit, mais que la tune Seek and Destroy de l'album Kill 'Em All, sûrement leur premier gros hit, aurait été composé par ZZ Top. Puis pour vrai, ça aurait quand même donné une bonne toune, ce qui vient renforcer ta théorie selon laquelle...
Une bonne toune. Mais moi, ils ont-tu renommé, pour rester dans la thématique du jour, le band s'appelle-tu Zizilika?
Non, mais moi, j'ai décidé d'appeler ça Metallitop. Et effectivement, ça souscrit à ta théorie qu'une bonne toune, c'est une bonne toune. Peu importe dans quel genre elle est déclinée. Fait que, ben, on va se quitter là-dessus. Voici Seek and Destroy si elle avait été composée par Zizilika. Donc, Metallitop, Seek and Destroy. C'était l'épisode 243. Du crachoir, amalgame douteux. J'aime ça dire le titre. Restez avec nous pour l'after show. Salut.
Step recording. C'est...
Feeling in our brain. Mother, if I didn't you, you know we drive us insane. Membre de la famille H2O Web Media.